Cher José Sahel, vous m'avez demandé de vous présenter ce soir, et c'est avec plaisir que j'ai accepté de me livrer à cet exercice périlleux. Non sans au préalable rappeler que nous devons à Christine Petit, qui porta votre candidature, l'honneur de vous accueillir sur la chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt de l'année 2016. Quelques mots sur la chaire pour commencer et pour remercier. Au nom du Collège de France, mais aussi de toute notre communauté, je veux en effet exprimer notre gratitude à la Fondation Bettencourt-Schuller pour son action inlassable dans le mécénat, tout particulièrement, mais pas exclusivement, en faveur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique qui suit ou précède, c'est souvent le cas, la recherche académique. La générosité des fondations ou celle des donateurs privés complète naturellement l'action de la puissance publique et contribue ainsi à notre compétitivité et donc au maintien dans le cercle limité des nations qui comptent sur le plan culturel, scientifique et économique. Pour ce qui est de la chaire, dont vous êtes aujourd'hui, cher José Sahel, le 10e occupant, sa mission est d'encourager la recherche et l'enseignement dans de très nombreux domaines. Nanotechnologie, informatique, réseaux de communication, transfert et cryptage de données, sciences du vivant, la liste est ouverte et d'une infinie variété. Cette chaire vous va à merveille. On va rapidement le constater, même s'il est extrêmement difficile de présenter en un temps limité un parcours d'une telle richesse, mêlant déjà une longue carrière universitaire et hospitalière, à une activité intense dans le domaine de la recherche. De surcroît, ce parcours n'est pas circonscrit à notre pays, puisque, marque de votre reconnaissance internationale, vous avez travaillé et travaillez encore dans de nombreuses et prestigieuses institutions étrangères, dont Harvard Medical School, l'Université de Wisconsin, l'University College de Londres ou encore l'Université hébraïque de Jérusalem. Pour ce qui est de vos activités en France, je me limiterai à rappeler que vous exercez, entre autres responsabilités éminentes, les fonctions de professeur d'ophtalmologie au centre à l'Université Paris-Marie Curie, de chef de service d'ophtalmologie au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des 15-20, de directeur de l'UMR INSERM UPMC Physiologie cellulaire et moléculaire de la rétine à l'hôpital Saint-Antoine, de directeur scientifique de l'Institut de la Vision, de directeur de l'Institut Carnot Voir et Entendre, de directeur du laboratoire d'excellence Life Sciences et de coordinateur du projet ELMOTS contrat ERC de type synergie. Vous êtes, cela va sans dire, membre de l'Académie des sciences et aussi, c'est moins banal, de l'Académie nationale allemande Léopoldina. J'épargne à votre grande modestie la litanie de vos prix et distinctions qui évoque les 1003 conquêtes de Don Juan. Non plus que je ne détaille les 13 conseils scientifiques auxquels vous participez ou présidez. Je passe aussi sous silence la liste de vos publications, plus de 30 par an pour la période récente. En comparaison avec vos activités, être administrateur du Collège de France, où vous allez, c'est pour vous une bagatelle, enseigner à l'année durant, peut sembler une véritable sinécure. Votre engagement dans la recherche scientifique prend son origine, vous le revendiquez, dans la frustration du médecin ophtalmologiste devant les impasses thérapeutiques. Vous avez rapidement compris, face à ces impasses, l'importance de donner le temps nécessaire aux recherches consacrées à la production de connaissances nouvelles. Vous n'avez pas seulement compris, vous l'avez aussi démontré, à travers vos activités dans les domaines de la recherche, de l'innovation et de la médecine. Je vous cite, « Seul le temps et les moyens donnés à ces recherches leur permettront de mûrir jusqu'au moment où, grâce à l'intervention ou la création de partenaires industriels, l'innovation pourra être validée et proposée aux patients dans une société dont les besoins doivent être compris et entendus sans les transformer en programmes et injonctions que la fixation de perspectives et échéances à court terme condamne à l'échec, faute de soutenir sans compromis la quête libre de la connaissance. » On ne saurait mieux dire. Biologie du développement, génétique fonctionnelle, physiologie, optique, modélisation, sciences de l'ingénieur, vos recherches et vos intérêts touchent de nombreuses disciplines et font appel aux compétences que vous avez su, c'est un autre de vos talents, réunir au sein de l'Institut de la Vision, votre création, ou attirer par des collaborations bien choisies. Je pense, pour nos collègues étrangers, à Ernst Bamberg de l'Institut Max Planck de Francfort ou à Botton Rosca de l'Institut Friedrich Mischer à Bâle, institut financé largement par Novartis, bien que dédié à la recherche fondamentale. Il existe en effet des voies intelligentes, non bureaucratiques et non contraignantes, généreuses surtout, pour rapprocher la recherche biologique de l'industrie pharmaceutique. Une autre de ces voies intelligentes est d'avoir une recherche académique d'une telle excellence que les industriels se bousculent pour investir dans l'innovation à proximité de ces foyers de connaissances. C'est l'exemple donné par la région de Boston. Ces figures du rapprochement sont 1000 fois plus efficaces et plaisantes que les mariages forcés. Ce qui m'amène à insister sur votre engagement en faveur de l'investigation clinique, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Co-inventeur de plus de 20 brevets, vous coordonnez le Centre d'investigation clinique d'ophtalmologie et le Centre national de référence pour les dystrophies rétiniennes, supervisant plus de 50 essais cliniques, implants rétiniens, thérapie génique et cellulaire principalement. Par-delà cette activité nationale, vous êtes coordinateur d'un réseau de 90 centres européens d'essais cliniques. Ces essais cliniques s'inscrivent dans une activité personnelle de développement de start-up, jeune pousse pour les puristes. Vous avez cofondé l'entreprise Fovea Pharmaceuticals, devenue la division d'ophtalmologie de Sanofi en 2010, ainsi que Street Lab, autonomie des déficients visuels, GeneSight, thérapie génique de l'œil, et Pixium Vision, développement d'implants rétiniens. Vous m'accorderez que ce n'est pas diminuer vos mérites que de rappeler le rôle joué dans cette dernière activité par Bernard Gilly, non pas le photographe sulfureux, mais le président de Ibionext, qui, à travers sa société, poursuit son infatigable combat en faveur de la création et du financement de petites entreprises innovantes, dont le rôle est de transformer nos trouvailles de chercheurs en véritables percées thérapeutiques. Je vous dois d'avoir croisé son chemin et je vous en suis profondément reconnaissant. Il est temps maintenant de vous donner la parole afin que vous nous expliquiez en quoi votre domaine de recherche vit un tournant décisif, puisque, je vous cite de nouveau, que ce soit pour redonner partiellement la vue à certains aveugles ou pour empêcher une perte de vision jusque-là inéluctable à des stades plus précoces des maladies rétiniennes, nous sommes en train de passer du rêve à un début de réalité. Et pour passer du rêve à la réalité, il aura fallu partager votre ténacité et votre enthousiasme, faire partager votre ténacité et votre enthousiasme aux chercheurs du privé et du public, aux patients et aux médecins, sans oublier les industriels. Bref, il aura fallu rapprocher les regards, quitte prometteur de votre leçon inaugurale. Nous vous écoutons.
Monsieur le ministre, monsieur l'administrateur, chers et chers collègues, chères madame et monsieur Meyers, chères familles, amis, mesdames et messieurs. Merci de partager ce soir ces instants rares, préparés dans la joie et la tension. Une leçon inaugurale représente à la fois l'ouverture d'un dialogue dont la fécondité dira la profondeur et l'apparent aboutissement de décennies de recherche collective qu'il convient de positionner dans une histoire, somme toute courte, et un paysage en plein remodelage. Une année pour ne pas conclure, pour décrire plus l'ébahissement dans nos savoirs que les percées de nos explorations. Une respiration dans la course trop lente mais effrénée vers ces lueurs fugitives qui pourraient éclairer quelques regards. Ce cycle s'ouvre grâce à l'attention bienveillante de ceux et surtout celles qui ont ouvert ces lieux vénérables au récit d'une quête pourtant si fragile et inachevée, tant le fil des phrases n'aurait de cesse que de rejoindre la ligne de l'horizon. Quand Christine Petit m'a appelé pour évoquer l'écho favorable donné à sa proposition spontanée par l'Assemblée des professeurs, que je remercie, l'espoir de me trouver ici, maintenant, est né, teinté d'emblée du doute qui me poursuit et qui m'anime. Le maniaque de lecture que je suis a cherché dans vos écrits, chers et chers collègues, l'élan qui permet de franchir le seuil de ces lieux après tant de figures admirées. Rassuré d'y lire des sentiments proches, quoique bien moins fondés, d'humilité, je suis reconnaissant à Jean-Pierre Changeux d'avoir ouvert sa leçon par les propos de Claude Bernard, le prédécesseur de Pierre Corvol et Alain Fischer. Je cite « L'enseignement du Collège de France est d'une autre nature que celui des facultés. Ici, le professeur, toujours placé du point de vue de l'exploration, doit considérer la science non dans ce qu'elle a d'acquis et d'établi, mais dans les lacunes qu'elle présente pour tâcher de les combler par des recherches nouvelles. S'il faut parler de lacunes, je me sens moins un intrus, me reconnaissant dans le programme tracé en conclusion de la leçon donnée par notre administrateur, emprunté à Samuel Beckett, « Fail better », celui de se tromper mieux. La visée de nos métiers, ceux du soin, qui se sont illustrés il y a 2 mois dans notre pays de manière admirable, peut se reconnaître dans un mot de tous les jours, dont le sens s'est considérablement affadi, le regard. Le regard, réponse et attente du corps sensible aux lumières du monde relève par définition du soin. Jean Starobinski, dans L'œil vivant, expression empruntée à Rousseau, trace tout un programme. Il rappelle que si l'on interroge l'étymologie, l'on s'aperçoit que pour désigner la vision orientée, la langue française recourt au mot « regard », dont la racine ne désigne pas primitivement l'acte de voir, mais plutôt l'attente, le souci, la garde, l'égard, la sauvegarde, affecté de cette insistance qu'exprime le préfixe de redoublement ou de retournement. « Regarder » est un mouvement qui vise à reprendre sous garde. Le profond critique proposerait presque ici un idéal à ma profession, et je crains de compléter « profession de foi ». Il convoque aussi le chercheur en parlant d'un élan persévérant, une reprise obstinée, comme s'il était animé par l'espoir d'accroître sa découverte ou de reconquérir ce qui est en train de lui échapper. Ce qui m'intéresse, c'est le destin de l'énergie impatiente qui habite le regard et qui désire autre chose que ce qui lui est donné. Dans cette impatience qui habite tous les sens, mais que, je cite, la vue commande de la façon la plus manifeste, je retrouve chacun d'entre nous, et surtout tous ces patients qui ne peuvent plus attendre. Et comme je serais heureux si je pouvais continuer à filer la métaphore en le citant encore, en exprimant l'intensité du désir, il peut arriver que le regard devienne efficace. Mais bornant la prétention de mon désir quelques lignes plus loin, il énonce que l'espace visible atteste à la fois ma puissance de découvrir et mon impuissance d'atteindre. Comment mieux dire ? C'est à ce tâtonnement sur ces chemins dont nous savons qu'ils portent trace d'errance que je vous convie aujourd'hui, en ce moment de la connaissance que beaucoup attendaient et dont peu avaient rêvé. Milton, poète aveugle, déplorait que la couleur des songes de ces nuits disparaisse le jour venu à l'ouverture des paupières. Dans ce récit des luttes contre l'obscur que nous vivrons ensemble, nous partagerons une citation de l'espace des rêves, avec la joie de le vivre depuis peu, enfin, les yeux à peine entrouverts. En effet, cette année m'offrira un peu de temps pour parcourir des avenues en construction et esquisser quelque avenir pour les recherches sur l'œil vivant et le revoir. Et une année dans l'échelle du temps des rêves prend une dimension infinie. Merci à Christine Petit, à toutes et tous ceux qui me l'ont offerte. Il est temps maintenant d'ouvrir ce parcours. Commençons dans ces lieux. Voilà plus d'un demi-siècle, une des nombreuses figures illustres de cette maison, un philosophe d'une dimension rare, avait fait de la vision son thème de prédilection jusqu'à sa fin soudaine. Sur la table de travail de Maurice Merleau-Ponty, au moment de sa disparition brutale à la veille d'un cours, se trouvait ouverte la dioptrique de Descartes. Pourtant, dans son admirable et dernier ouvrage, « L'œil et l'esprit », il considérait, je cite, « comme un échec ». Cet ouvrage, qualifié de tentative de Descartes, celle d'être le bréviaire d'une pensée qui ne veut plus hanter le visible et décide de la reconstruire selon le modèle qu'il s'en donne. Ces lignes et les pages suivantes sont difficiles à lire pour ceux qui affectionnent les modèles, c'est-à-dire l'ensemble des chercheurs contemporains. Le texte est plus cruel encore pour les acteurs de l'innovation technologique lorsqu'ils y lisent le reproche de ne plus se soucier de coller à la vision pour prétendre savoir comment elle se fait, mais dans la mesure nécessaire pour inventer, en cas de besoin, quelques organes artificiels qui la corrigent. Or, les lois de l'optique énoncées par Descartes ont fait passer cette discipline de l'empirisme à la géométrie et permis la construction précise des anomalies, de la compréhension précise et la construction précise des anomalies de la réfraction de l'œil, constituant aujourd'hui encore le fondement de l'enseignement de l'optique géométrique. Et l'ambition de Descartes de nous rendre maîtres et possesseurs de la nature est celle des acteurs contemporains de l'innovation technologique, inventeurs et expérimentateurs des nouvelles prothèses, moléculaires avec la thérapie génique, tissulaires avec la thérapie cellulaire, optoélectroniques avec les implants rétiniens, hybrides avec l'optogénétique. C'est pourquoi, avant de revenir aux implications de la critique de Maurice Merleau-Ponty et essayer d'y faire écho plutôt que réponse, je m'autoriserai de Descartes et de ses modèles comme celui du corps-machine, pour décrire un parcours, depuis l'étude d'un ensemble dévastateur de maladies incurables et dégénérescences rétiniennes, jusqu'à leurs approches thérapeutiques actuelles et en devenir, traversant les voies ouvertes par la génétique moléculaire, l'imagerie à haute résolution et la modélisation. Acceptons pour commencer sa mise en garde contre la réduction de la pensée à l'ensemble des techniques de prise ou de captation qu'elle invente. Car ces techniques ont littéralement donné naissance à l'ophtalmologie au milieu du XIXe siècle. Les soins des maladies oculaires étaient jusque-là l'apanage de chirurgiens sommaires et l'immense majorité des affections oculaires étaient inconnues. L'émergence et les progrès de l'ophtalmologie depuis l'invention fondée sur les lois de l'optique et une bonne dose d'empirisme de l'ophtalmoscope par le physicien et physiologiste Hermann von Helmholtz en 1850, jusqu'à nos instruments qui aujourd'hui nous offrent une résolution cellulaire, ont été largement provoqués par des applications de la physique, dont évidemment l'optique. L'un des grands fondateurs de l'ophtalmologie moderne, Albrecht von Graefe, exprima que la découverte de cet instrument nous a révélé un nouveau monde, qualifié par Helmholtz lui-même de terra incognita. Dans les années qui suivirent, quelques pionniers européens décrivirent la plupart des affections en moins de 10 ans et proposent des hypothèses physiopathologiques en une période où la méthode anatomo-clinique permet des corrélations séminales. Parmi toutes ces affections, la principale cause de cécité d'origine génétique, la rétinopathie pigmentaire, touchant environ une personne sur 3000 à 4000, fut identifiée et appelée rétinitis pigmentosa par Donders, un ophtalmologiste et physicien allemand. Et sa transmission génétique a été démontrée peu après. Tel était, presque 100 ans après, le niveau de compréhension de la maladie que nous avions lorsque j'ai commencé à faire de l'ophtalmologie. L'évolution de la maladie semblait stéréotypée et inéluctable. Les patients ont été réduits à une vision en tunnel, progressivement de plus en plus étroit, jusqu'à la perte de la vision centrale et jusqu'à la cécité. À l'ère du triomphe de la microchirurgie, du cristallin artificiel, du laser, s'intéresser aux maladies génétiques de la rétine, supposé un tempérament contemplatif que j'assume, souvent assorti d'une résignation bien trop classique à l'impuissance et à l'imprécision sémiologique que cachaient mal des classifications de maladies dignes de Diafoirus dont nous subissons les limites encore aujourd'hui. Pour que certains, dont j'ai fait partie, trouvent quelque attrait à la prise en charge de ces patients, il fallait certes les avoir rencontrés et écoutés, mais surtout croire déjà et depuis lors que le changement, c'est maintenant. En effet, en peu d'années, les technologies de la génétique moléculaire, de l'imagerie non invasive à haute résolution, allaient permettre de préparer les révolutions thérapeutiques d'aujourd'hui. Grâce à l'identification de localisations chromosomiques il y a exactement 30 ans par Shomi Bhattacharya et d'autres méthodes plus modernes de génétique moléculaire appelées séquençage de nouvelle génération, terme qui sera appelé à mal vieillir, comme tout ce qui est nouveau, d'exome, du génome, il est devenu de plus en plus rapide et à un coût de plus en plus bas d'identifier l'anomalie génétique causale et les gènes modificateurs du phénotype, c'est-à-dire l'expression clinique, que l'on connaisse ou pas des gènes candidats. Georges Canguilhem écrivait que si l'organisation est à son principe une espèce de langage, la maladie génétiquement déterminée n'est plus malédiction mais malentendu. C'était dans Le normal et le pathologique 20 ans après. C'est assez prophétique, le fait d'avoir découvert de plus en plus de gènes impliqués a entraîné une complexité dans la compréhension de ces maladies. Mais par la même occasion, il a aussi permis de dédramatiser, de prévoir, d'espérer corriger l'anomalie causale. Le premier gène, celui de la rhodopsine, fut incriminé en 1989. Aujourd'hui, juste pour la rétinopathie pigmentaire, près de 60 gènes ont été identifiés avec des milliers de mutations différentes et les équipes, suivant la voie très tôt tracée par Christine Petit pour le syndrome de Usher, décryptent les mécanismes de dégénérescence provoqués par ces mutations, décrivant souvent par là même de nouvelles fonctions jusque-là insoupçonnées. Dans un mouvement constant de balancier entre le laboratoire et la clinique, le pivot et le recours au modèle. Il convient de cerner les limites des modèles indispensables, animaux, spontanés ou transgéniques, et de recourir autant que possible à des modèles cellulaires, comme par exemple ce que permettent les cellules reprogrammées issues d'une biopsie de la peau chez le patient lui-même, mais aussi la modélisation mathématique. Et en quelques années, le rôle de protéines, dont de nombreuses jusque-là inconnues, contribuant à la caractérisation de la physiologie moléculaire de la vision, ont enrichi notre connaissance clinique, mais aussi les connaissances fondamentales. L'œil, qui est un instrument ténu, comme disait Borges, et c'est la seule petite, ce qui nous permet d'avoir une toute petite bande de perception dans les ondes électromagnétiques qu'on appelle la lumière visible. Cette bande très étroite est rendue possible par l'absorption au niveau de la rétine, après traversée de l'ensemble des dioptres oculaires, par cette perception par la rétine, l'absorption au niveau de ce qu'on appelle les photorécepteurs, qui, comme leur nom l'indique, reçoivent la lumière et restituent un signal. Cette absorption de la lumière va lancer un certain nombre de réponses physiologiques. Ces réponses avaient été qualifiées, par Merleau-Ponty encore, comme celles de computeurs du monde qui ont le don du visible. Détection de la lumière, réponse proportionnelle, contraste spatial, contraste temporel, et l'ensemble du signal est intégré au niveau des cellules qui vont quitter l'œil pour aller vers le cerveau, les cellules du nerf optique, les cellules ganglionnaires. Au niveau des photorécepteurs, nous disposons de deux types de photorécepteurs. Des photorécepteurs à bâtonnets qui nous permettent de voir la nuit et jusqu'à peu près au clair de lune et sont capables de détecter un seul photon et d'amplifier par 1 million l'intensité de ce photon. Puis ils prennent le relais très tôt, dès le clair de lune, les cônes, beaucoup moins nombreux, mais beaucoup plus importants pour la vision centrale et la vision de jour. Eux ont 3 pigments, ce qu'on appelle la trivariance visuelle, et nous permettent d'avoir aussi non seulement une vision précise, mais la vision des couleurs. À partir de cette absorption de la lumière et de réponses proportionnelles à la lumière, se déroule un processus qui va entraîner, après la traversée des dioptres oculaires par la lumière, une absorption au niveau des photorécepteurs, un traitement de l'information et une émission de signaux sous forme de potentiel d'action qui vont ensuite se diriger vers le cerveau, qui est l'organe réel de la vision. Je rappelle le cours de Guy Orban ici, le cerveau, organe de la vision. Mais avant d'arriver au cerveau, un traitement considérable de l'information se déroule. Il est aujourd'hui possible de décomposer le circuit rétinien de manière extrêmement précise. À partir de la stimulation des photorécepteurs, il est possible de stimuler n'importe quelle cellule de la rétine en utilisant par exemple un ciblage génétique par optogénétique, d'enregistrer par ciblage optique ou par des multi-électrodes, aujourd'hui plus de 1000 électrodes à la fois, et de déterminer des modules fonctionnels au niveau du tapis de cellules ganglionnaires qui va composer ensuite le nerf optique. Des techniques encore plus modernes ont été développées en holographie digitale avec Valentina Emiliani dans le cadre du Brain Project pour déterminer par stimulation au niveau subcellulaire la réponse qui pourra être enregistrée au niveau de la sortie rétinienne. À partir de cela, il est possible de prédire à 95% le signal qui va partir du nerf optique pour aller vers le cerveau. En contrôlant le stimulus, en modélisant les informations avec des modèles à plusieurs étapes, avec des personnes qui sont à la fois des modélisateurs et des expérimentateurs, comme Olivier Maure. Et de ce fait, un codage de l'information est produit, codage de l'information qui nous démontre que nous ne voyons rien. Nous ne voyons qu'un empilement d'informations complexes qui vont détecter le contenu de l'image, le bord de l'image, le mouvement, un ensemble d'informations qui sont codées dans le temps avec une simultanéité d'une importance considérable et qui vont ensuite s'associer sous forme de modules parallèles. Donc cet empilement de modules va représenter l'image et va détecter avec quelque chose qui était insoupçonné jusqu'à il y a peu, une anticipation d'informations au niveau de la rétine elle-même, partie intégrante du cerveau, les informations les plus pertinentes pour nous permettre de détecter, par exemple, cette scène avec Roger Federer. Et ensuite, l'information empilée par chacun des modules, les 20 images, je vous en ai montré que 4 tout à l'heure, vont être convoyées vers le thalamus, puis vers le cortex, et intégrées dans l'ensemble de l'espace visuel et de l'espace cérébral. Dans les dégénérescences rétiniennes, les photorécepteurs disparaissent par différents mécanismes, et reste la circuiterie rétinienne, certes avec des remodelages, des modifications considérables, mais cependant une capacité de traiter une partie des informations pour autant que la lumière puisse permettre de stimuler de nouveau ces cellules. Et c'est tout l'objet, chez ces patients qui ont perdu leur vision périphérique puis leur vision centrale, d'essayer de stimuler le tissu rétinien restant ou d'empêcher la perte des photorécepteurs. C'est cela qui va être au cœur de ce que je vais essayer de démontrer dans les moments qui vont suivre, cette capacité de protéger, voire de restaurer, encore limitée, mais extrêmement prometteuse. Tout passe d'abord par une caractérisation extrêmement précise, patient par patient, de sa pathologie. L'observation classique du fond d'œil depuis Helmholtz a toujours sa validité, mais elle a laissé place à des méthodes de mesure de la fluorescence dans la rétine avec des dépôts, de calcul de l'épaisseur rétinienne avec les différentes couches, de mesures physiologiques du champ de vision en projetant sur le fond d'œil du patient et en lui demandant de répondre, et de mesures électrophysiologiques, donnant naissance à ce qu'on appelle des corrélations anatomo-fonctionnelles ou morpho-fonctionnelles. La résolution de ces méthodes au cours des 20 dernières années s'est considérablement améliorée. Nous arrivons aujourd'hui à une résolution cellulaire, déjà tissulaire, de quelques microns. Ici, ce sont les couches de la rétine en tomographie par cohérence optique, un véritable scanner à photons, où il est possible, pour les photorécepteurs par exemple, de détecter la couche des noyaux, la couche des segments internes qui relie au segment externe, zone de captation de la lumière et lancement de la vision. Dans d'autres pathologies, comme le glaucome, il sera possible d'évaluer l'épaisseur des cellules ganglionnaires et de déterminer la perte dans l'évolution de cette maladie. De nouvelles méthodes sont venues enrichir ces capacités d'évaluation de la rétine à très haute résolution. Par exemple, l'optique adaptative dérivée de l'astronomie. En même temps que David Williams à Rochester dans le Minnesota lançait ce type d'approche, Pierre Léna à Paris nous proposait de nous associer pour développer une instrumentation dérivée de leur très grande compétence pour la construction de télescopes géants en optique adaptative, technique qui permet de corriger les aberrations optiques et d'obtenir un grain d'image de la rétine. Ici, chaque point que vous observez, c'est un photorécepteur. À partir de cette imagerie des photorécepteurs, in vivo, en infrarouge, sans éblouir le patient, sans traumatisme, il est possible d'établir une densité des photorécepteurs et ces techniques qui ont encore beaucoup d'artefacts ne cessent de s'améliorer, en particulier grâce à mon collaborateur Michel Pack. Et il est donc possible de reconstruire pour le patient sa macula en trois dimensions, avec la perte cellulaire, ici au centre de la rétine, les dépôts qui se sont effectués, la possibilité de voir la matrice de photorécepteurs, et donc à l'instant donné où le patient est observé de manière transversale, d'essayer de déterminer quelle va être l'évolution dans les années qui vont suivre dans le cadre des études d'histoire naturelle. Pour la rétinopathie pigmentaire, par exemple, il est possible de mesurer la longueur des segments externes, la densité des photorécepteurs, et par exemple d'identifier des patients qui vont, ayant perdu tous les photorécepteurs, devenir d'excellents candidats pour l'optogénétique ou la rétine artificielle. Il est possible d'aller plus loin et d'introduire la composante temps, la quatrième dimension. C'est ce que nous essayons dans le cadre du projet Helmholtz avec Mathias Fink, Michael Tanter et toutes les équipes de l'Institut Langevin. C'est d'obtenir une imagerie en trois dimensions, mais aussi avec la composante de temps, pour que les corrélations anatomo-fonctionnelles ne soient plus des corrélations, mais une mesure permanente et holistique de l'ensemble de la fonction et de la structure rétinienne. Nous en sommes loin, mais nous espérons y parvenir. L'ensemble de ces analyses, qu'elles soient génétiques ou qu'elles soient morphologiques, produit de très nombreuses données. Ces données doivent être intégrées dans des bases de données, comme leur nom l'indique, qui vont permettre d'intégrer ces informations, qu'elles soient génomiques, qu'elles soient issues des modèles animaux, qu'elles soient issues de la biologie fondamentale ou structurale, qu'elles soient aussi issues de l'analyse clinique. Ces bases de données sont très lourdes, elles impliquent une gestion massive, comme dit le nom anglo-saxon, et elle rentre très bien dans ce qui avait été prédit par Canguilhem lorsqu'il disait que nous allions devenir des médecins spécialistes, ingénieurs d'un organisme décomposé comme une machinerie, médecins encore par la fonction, mais non plus désormais par correspondance à une image séculaire, lorsque la consultation consiste en interrogation par ordinateur de banque de données d'ordre sémiologique et étiologique et la formulation d'un diagnostic probabilitaire soutenu par l'évaluation de données statistiques. Ça fait un peu peur. Et d'ailleurs, vient à l'esprit immédiatement ce que disait Saint John Perse. Mais c'est de l'homme qu'il s'agit, et de l'homme lui-même. Quand donc sera-t-il question ? Quelqu'un au monde élèvera-t-il la voix ? Car c'est de l'homme qu'il s'agit dans sa présence humaine et dans un agrandissement de l'œil aux plus hautes mers intérieures. Donc la précision de cette médecine ne doit pas se faire au détriment de ce qui pouvait être une composante de la médecine d'autrefois, qui était une médecine dite humaniste. Cependant, il faut avouer que les conjectures de la médecine floue d'autrefois ne s'accompagnaient pas toujours d'une grande écoute de l'humain et que la médecine de précision, avec les instruments et algorithmes qui émergent, devra faire face au passif que nous pouvons avoir dans l'annonce du diagnostic et dans l'évaluation de la maladie, mais aussi profiter du kairos, du moment particulier de l'efficacité thérapeutique, pour essayer d'établir le soin comme un lien avec la personne humaine. Préparer ce temps des essais cliniques, c'est connaître et classer, enfin, les caractéristiques morpho-fonctionnelles du système visuel du patient. et de déterminer s'il va pouvoir s'inscrire dans un espoir raisonnable dans un parcours d'innovation thérapeutique qui relève encore de la recherche. Il va falloir analyser l'état des photorécepteurs, il va falloir analyser l'état de la rétine restante, et des stratégies vont pouvoir être proposées, testées, c'est ce que nous essayons de faire de manière très systématique à tous les stades de la maladie. Corriger l'anomalie génétique par remplacement du gène ou la correction de gène, par la pharmacologie parfois, protéger les cellules restantes, remplacer les cellules perdues de différentes façons, cellulaires, prothétiques ou hybrides. Nous allons rapidement aborder d'abord la thérapie génique, dont je ne suis pas, il y a ici des bien meilleurs experts. Et la thérapie génique aujourd'hui est une possibilité d'essayer de corriger une anomalie au niveau des photorécepteurs. Elle implique une construction des vecteurs qui vont porter le gène manquant, tenter de le faire exprimer au bon endroit dans la cellule, que ce soit au niveau des photorécepteurs ou ailleurs dans d'autres pathologies, et essayer ainsi de restaurer une partie de la fonction perdue. Grâce aux travaux en hémato-immunologie d'Alain Fischer et sur la rétine de plusieurs équipes, dont en particulier celle de Philadelphie et celle de Nantes, de grands succès ont été obtenus, initialement chez le chien Briard, porteur d'une maladie qui atteint le métabolisme de la vitamine A, le pigment de la vision, de restaurer la fonction chez ces chiens, puis 7 ans après, chez l'homme, avec des résultats suffisamment encourageants pour que l'enregistrement de cette approche, après une phase 3 positive, soit attendu dans l'année qui vient. D'autres maladies bénéficient de ces approches. Nous conduisons actuellement 3 essais cliniques sur des maladies génétiques, 2 avec Sanofi, 1 avec GenSight. D'autres sont en développement, issus directement de la recherche de notre laboratoire, comme cette approche-là, mais 2 autres encore. Et la thérapie génique rentre dans un arsenal. Elle comporte cependant un certain nombre d'interrogations qui sont liées au traumatisme introduit par la chirurgie dans un tissu malade, décoller la rétine, y injecter un produit de gène et essayer de faire en sorte que l'expression soit stable, comporte un certain nombre de risques, d'autant plus qu'il semble que l'effet s'estompe après de longues années, au moins 7 à 8 ans, mais ceci est une interrogation qu'il faut avoir en tête. Le rythme des essais cliniques commence toujours par des stades précoces qui ne se font pas chez le volontaire sain, mais qui se font chez des patients déjà atteints, mais il y a des stades terminaux de la maladie, il y a des stades où ils n'ont plus grand-chose à perdre, mais malheureusement plus grand-chose à gagner aussi, puisque la question de savoir ce qu'il reste comme cellule et si la perte est fonctionnelle ou cellulaire est au cœur de la conception de ces essais cliniques. Aujourd'hui, nous appelons ça un design adaptatif, une conception adaptative des essais qui, en fonction des résultats de la première phase, va conduire à la phase suivante. Mais en réalité, s'il ne reste plus de cellules cibles, si les cellules que nous voulons transfecter, comme nous disons, avec le gène normal, ne sont plus là, que pouvons-nous espérer à part montrer l'absence de complications ? C'est en fait au stade des phases pivot, des phases 3, que le résultat thérapeutique est attendu. Est-il réaliste et est-il éthique de commencer des essais cliniques lorsque l'espoir de bénéfice pour les patients est relativement limité ? Mais avons-nous le choix ? Autre approche qui, elle, a l'avantage de ne pas se préoccuper de la mutation causale, mais d'essayer de protéger sur l'ensemble des mutations, parce que, comme vous l'avez pu le voir, avec 60 mutagènes différents impliqués, la complexité d'apporter ces approches thérapeutiques sur toutes les pathologies en est une. Et il y a aussi une question qui est très importante pour tous, qui est celle des mutations dominantes, même si aujourd'hui, grâce à la chirurgie du génome, très à la mode ces derniers jours, il est possible d'envisager une correction précise par édition du génome. La thérapie génique est la seule approche vraiment curative, mais elle ne peut être proposée sans doute qu'à des stades précoces, ce qui est une ouverture très importante pour l'avenir. Nous avons travaillé depuis des années sur la neuroprotection, c'est-à-dire la tentative de stabiliser la vision restante chez les patients atteints. Ceci est dérivé d'une approche où nous avons cherché à analyser les interactions entre bâtonnets et cônes et avons démontré que chez les patients qui perdaient leur vision périphérique et surtout leur vision de nuit, parce que des mutations étaient exprimées au niveau des bâtonnets, les cellules qui nous permettent de voir la nuit, il n'était pas possible de comprendre pourquoi ces patients perdaient secondairement leur vision centrale et leur cône, alors qu'il n'y avait pas de mutation dans ces gènes. Donc nous avons travaillé à essayer de comprendre cela et démontrer, par des études de transplantation, de co-culture, que je ne détaillerai pas, qu'il existait un signal entre les photorécepteurs, entre les bâtonnets et les cônes, et qu'en l'absence des bâtonnets, cela ayant dégénéré du fait de la mutation causale, les cônes étaient privés d'un signal de survie et disparaissaient secondairement. Le patient a donc initialement une mauvaise vision nocturne, puis plus de vision nocturne, puis plus de vision centrale et de vision de jour. Nous avons alors lancé de manière extrêmement systématique avec Thierry Léveillard, que Pierre Chambon m'avait envoyé, avec lequel nous avons travaillé depuis des années, à identifier le signal entre les bâtonnets et les cônes, entre la rétine avec bâtonnets et les cônes. Et grâce à un criblage systématique par clonage par expression de plus de 200 000 clones, il a été possible d'identifier une protéine que nous avions déjà appelée Rod-Derived Cone Variability Factor, RDCVF, qui est en fait un autre nom dans la classification internationale, protéine exprimée au niveau des photorécepteurs et qui protège les photorécepteurs contre le stress de la lumière et de l'oxygène. Plus récemment, pendant que nous progressions vers le transfert vers la clinique de cette approche, puisque cette protéine représente un agent thérapeutique potentiellement très important pour les patients, Thierry Léveillard a conduit une analyse systématique pour identifier la signalisation sous-jacente. Publiée récemment, cette signalisation a mis en évidence l'existence d'un récepteur jusque-là orphelin, appelé bacilline 1, couplé de manière sans doute allostéirique à un transporteur du glucose qui fait entrer le glucose dans les photorécepteurs. De manière très intéressante et très inattendue, ce n'est pas le métabolisme classique le plus connu qui est stimulé, mais ce qu'on appelle la glycolyse aérobie, décrite par Otto Warburg dans les années 20, qui lui a valu le prix Nobel en 1931. Cette glycolyse aérobie libère des carbohydrates qui sont extrêmement importants pour la construction des segments externes des photorécepteurs. Les bâtonnets contrôlent donc le métabolisme des cônes et permettent la recroissance des photorécepteurs. Otto Warburg avait observé ce phénomène dans la rétine. C'était la seule exception en dehors des cellules cancéreuses. Il avait décrit ce phénomène pour les cellules cancéreuses comme nécessaire à leur survie, mais il l'avait considéré comme un artefact. Aujourd'hui, cet artefact est un phénomène biologique majeur qui permet d'espérer, comme un éditorial l'avait résumé, en faisant rentrer le glucose par cette glycolyse aérobie dans les photorécepteurs, de reconstruire les segments externes des cônes, même s'il n'y a plus de bâtonnets, et donc de leur permettre de recevoir la lumière. Dans les essais thérapeutiques que nous préparons, nous avions été confrontés au fait que nous entraînions, en administrant ce facteur à la rétine, ici une rétine de rat malade, nous observions des segments externes, nous observions surtout une réponse physiologique très importante par rapport à la rétine traitée, et bien au-delà de ce que nous espérions par des analyses quantitatives morphologiques. Plus récemment, sur un autre modèle, nous avons montré que cette protection était massive et qu'elle était fonctionnelle, proche de ce qui est observé chez l'animal non traité, non malade. Donc aujourd'hui, un développement thérapeutique est en cours pour essayer d'amener cette approche chez le patient. L'avantage de cette approche, c'est que même si nous n'arrivons à protéger que 5% des cônes, ceci permettrait au patient de se déplacer et de garder une vision ambulatoire utile. Et 50% des cônes, c'est une vision normale. Autre approche, la thérapie cellulaire. La thérapie cellulaire consiste à remplacer les cellules manquantes. Et aujourd'hui, ce qui était encore un fantasme est devenu en partie possible grâce aux cellules souches embryonnaires et grâce aux cellules reprogrammées, les fameuses cellules iPS, cellules reprogrammées induites à partir du patient, qui permettent de produire de l'épithélium pigmentaire de soutien, mais aussi toute une rétine en trois dimensions avec sa connexion. Il reste à la connecter au nerf optique, mais nous n'en sommes pas encore là, nous y venons. Cette médecine régénérative, sur laquelle nous reviendrons plus tard parce que ça se prendrait trop de temps aujourd'hui, est très prometteuse, mais se pose la question de la sécurité et surtout de l'intégration des reconnexions synaptiques de ces tissus. Donc cela relève encore d'axes de recherche fondamentaux qui doivent être soutenus dans la durée. Dans ce cadre-là, et je sors un tout petit peu pour y revenir un peu plus tard de la rétinopathie pigmentaire, il est aussi possible d'envisager faire repousser le nerf optique, reconnecter le nerf optique. Et ici, donc, Alain Chédotal travaille sur des modèles comme beaucoup d'autres ici, mais avec une approche qui devrait viser à régénérer, après traumatisme du nerf optique, une connexion. Les molécules commencent à être mieux comprises, cette signalisation est-elle aussi prometteuse? Et pourquoi ne pas rêver? Récemment, Science s'est fait l'écho d'une tentative collective à laquelle nous sommes associés, tentative que j'avais qualifiée de délirante il y a 15 ans, ce qui est cité dans l'article, mais qui aujourd'hui nous paraît moins délirante, puisqu'il s'agirait de greffer un œil entier. Donc évidemment, le chemin est long, mais ce genre d'initiative folle ouvre des perspectives de recherche qui nous permettront d'apprendre suffisamment pour avoir des retombées dans d'autres domaines. Autre approche, la réactivation de la rétine restante, optogénétique et prothèse. L'optogénétique est une méthode qui consiste à faire exprimer dans la rétine ou ailleurs, partout dans l'organisme, des protéines sensibles à la lumière. La première a été découverte dans le laboratoire d'Ernst Bamberg, qui a été mentionné par Alain tout à l'heure, et permet de dépolariser les cellules en réponse à la lumière. Il y a un couplage direct entre l'activation par la lumière et un canal ionique. Parfois, il s'agit de pompes qui peuvent être exprimées au niveau des photorécepteurs à courbe. Cette approche doit pouvoir permettre de réactiver les cellules restantes. Ici, dans un travail avec Botton-Rosca à Bâle, nous avions montré qu'il était possible de réactiver les cônes restants et d'obtenir des réponses physiologiques avec une réponse à la lumière très très précise et surtout une réponse au niveau des ganglionnaires qui récapitulait l'ensemble des réponses physiologiques, même si l'intensité était moins importante. Le transfert vers la clinique passe par la recherche sur une espèce plus proche de l'homme, en l'occurrence la même, les primates, et la possibilité d'exprimer au niveau de la rétine centrale des protéines sensibles à la lumière, chirurgie qui passe donc par une approche translationnelle et aussi chirurgicale pour essayer de réactiver la rétine restante. Il s'avère qu'un des enjeux, c'est l'intensité lumineuse qu'il faut délivrer à ces rétines, et donc nous développons en même temps, avec notre partenaire industriel, des lunettes qui permettent d'activer la rétine restante en émettant une lumière suffisante, puisque la lumière naturelle ne suffirait pas à activer ces protéines. En effet, le gain de 1 million dont je parlais tout à l'heure ne peut pas exister avec ce type d'approche, il faut donc le remplacer, ainsi que l'adaptation au changement de luminance. Les prothèses rétiniennes, elles, relèvent d'une approche classique aujourd'hui avec les implants cochléaires et d'autres, qui consiste à stimuler le tissu restant, soit au niveau de la rétine elle-même, des photorécepteurs elles-mêmes manquants, soit au niveau des cellules ganglionnaires. Ces deux approches sont aujourd'hui en essai clinique et ici on peut montrer le fonctionnement de ce type de prothèse. Pardon. Une caméra va donc prendre l'image qui va être traitée, émise par un émetteur vers une antenne située sur l'œil, connectée par un câble à une puce électronique que nous avons placée sur la rétine, aujourd'hui 50 à 60 électrodes, qui va transmettre l'information vers le cerveau. Mais c'est le cerveau qui devra interpréter ces images. Ici, on voit un des patients opéré avec une des premières prothèses, capable de lire des mots de 4, 5 lettres, avec une vitesse lente, environ 10 mots par minute, contre 200 pour nous. Mais pour un aveugle depuis 20 ans, ceci représente une avancée considérable. Aujourd'hui, ces prothèses rentrent dans une nouvelle phase, avec une résolution de plus en plus importante. Nous venons d'obtenir l'accord pour une résolution multipliée par 3. Et surtout, cette approche qui devrait permettre, comme nous l'avons modélisé, de démontrer la capacité d'améliorer la résolution des images. Ici, c'est la place de la Bastille vue avec différents types de prothèses. Il est possible d'avoir un panel d'électrodes, ici des photodiodes, développés en partenariat avec Daniel Palanquer à Stanford. Cette modélisation avait été faite avec Avi Safran et Serge Picot. Et ce type de prothèse implantée sous la rétine devrait permettre d'être activée par la lumière et de pouvoir, avec une chirurgie courte, environ 45 minutes, répondre avec un nombre d'électrodes suffisant pour pouvoir espérer atteindre une acuité visuelle d'environ un dixième, ce qui est très peu, mais qui est le seuil de la cécité selon la définition de l'OMS. Donc ce type de prothèse est implantée sous la rétine. Je vais passer pour gagner du temps, mais ces prothèses sont ensuite activées par la lumière avec des lunettes très proches de ce que j'ai décrit tout à l'heure pour l'optogénétique. Donc ici, on voit l'injection de la prothèse et donc une activation ensuite par la lumière après la chirurgie. Les essais cliniques sur cette approche développée par Pixion devraient avoir lieu normalement d'ici un an. Et ici, on profite de toutes les connaissances que j'ai décrites tout à l'heure sur le codage d'informations dans la rétine. En effet, la rétine est un système de traitement d'informations, un computer du monde, comme je l'avais évoqué tout à l'heure. Mais ce computer du monde va nous permettre de modéliser l'information rétinienne, les différents types, et de renseigner ces informations sous forme d'un code dans des caméras qui vont travailler comme travaille un œil humain, comme travaille une cellule d'un œil humain, puis d'émettre l'information vers l'œil à travers ces lunettes dont je vous ai montré tout à l'heure un exemple. Comment fonctionnent ces caméras qu'on appelle événementielles ? Il faut que ça avance. Voilà. Ces caméras vont fonctionner en traitant l'information. Elles vont capter cette information au niveau donc, de pixels. Et au niveau de ces pixels, c'est la différence d'intensité lumineuse qui va permettre progressivement, comme on le voit ici, de générer un signal. Un autre film va le montrer de façon encore plus évidente, puisque ces caméras sont appliquées maintenant dans d'autres domaines, comme la télédétection. Le film ne va plus être celui d'une image, mais des différences de pixels, et donc un codage qui divise par plus de 1000 la quantité d'informations et qui va permettre de détecter des changements, ce qui seul compte pour la rétine. À partir de cela, il est possible d'alléger le travail du cerveau et le travail du tissu rétinien restant pour essayer de coder l'information de manière satisfaisante. Ces caméras sont donc paramétrées on les appelle encore caméras par habitude, mais en fait elles rompent la trop classique et réductrice comparaison de l'œil à une caméra qui capterait des images qui seraient envoyées vers le cerveau pour les interpréter. Merleau-Ponty mettait déjà en garde contre une opération de la pensée qui dresserait devant l'esprit un tableau ou une représentation du monde. L'esprit est un, c'est-à-dire que le cerveau et l'œil sont une seule partie, et on ne peut pas imaginer de projeter une image vers le cerveau, c'est un traitement qui commence dès la rétine et qui se continue. Dans la nuit du 3 au 4 mai 1961, il écoutait, je crois, Mozart, d'après ce qu'on dit, et préparait son cours sur le cogito cartésien. Il n'en reste que les notes. Et ouvert sur sa table de travail, il y avait la dioptrique de Descartes. Je me plais à penser qu'il regardait peut-être cette image où un homoncule perçoit les images transmises par les dioptres oculaires. C'est une des limites de nos tentatives en vision prothétique de présenter une reproduction du réel au cerveau, comme s'il contenait l'homoncule cartésien. Descartes lui-même insiste sur le rôle computationnel du cerveau. Il s'évène la quête de la ressemblance. Il associe ainsi, dans la stimulation de la pensée, images, signes et paroles et sons. Un espace sensoriel, multimodal et computationnel que nous explorons avec Christine Petit. L'ouverture prochaine de l'Institut de l'audition devrait permettre cette convergence des recherches sur la sensorialité et de s'opérer sur un lieu unique, intégré, partagé. Car restaurer la vision, ce n'est pas reproduire une image du réel, ce dont nous connaissons le caractère illusoire, c'est nourrir un flux qui va du monde à nous, en nous. Le système visuel, depuis la mosaïque des photorécepteurs jusqu'au cerveau, est une unité fonctionnelle structurée en modules anatomo-fonctionnels parallèles qui traitent l'information d'emblée, constamment, dans une fluidité qui concilie mise en alerte permanente, mobilisation des ressources de l'attention, de l'expérience et de la mémoire. Nous ne voyons pas d'image, nous ne voyons rien. Nous confrontons notre imagination au réel en codant les paramètres que nous voulons signifiants. Cette prédiction de ce qui est vu, comme le soulignait Jean-Luc Marion, est une manière écologique de gérer un flux trop précis, trop massif de sensations, en économisant l'attention requise par ce qui est prévisible ou ce qui est insignifiant, au profit d'une focalisation sur ce qui est guetté. Le connu bénéficie des acquis, d'une forme d'habitude de voir, que le réel vient confirmer. Une quête de l'inattendu, qui est la véritable visée du regard, est en œuvre. Le système est adaptatif, anticipateur, il apprend à imprévoir et à nous tromper. Reconquérir la vision passe, est-ce donc surprenant, par un apprentissage qui est fondé sur le connu, qui mobilise la mémoire, les autres sens, dont l'ouïe et le toucher, si essentiels aux aveugles, pour reformer une expérience cohérente du réel. Répétition consommatrice de temps et d'efforts, l'étape de réhabilitation des patients après la rétine artificielle ou autre méthode est un intermédiaire vers une nouvelle possibilité de redécouvrir le monde. Nos patients en parlent comme d'un fatigant plaisir dont le désir était latent. Je cite « Une prose du monde, lue comme pour la première fois, qui relègue à l'arrière-plan le regard habituel dont Proust disait qu'il est nécromancie. » Nos patients nous apprennent ce que disait Foucault dans Naissance de la clinique. Quand il a dénoué ses parentés vieillies, l'œil peut s'ouvrir au ras des choses. L'œil qui a parenté avec la lumière ne supporte que son présent. Ce qui permet à l'homme de renouer avec l'enfance et de rejoindre la permanente naissance de la vérité, c'est cette naïveté claire, distante, ouverte du regard. Le discours du monde passe par des yeux ouverts et ouverts à chaque instant comme pour la première fois. Il va falloir des semaines, des mois de réhabilitation, d'apprentissage pour que ce regard naïf se transforme en une vision utile mais qui doit garder sa fraîcheur, sa capacité de détecter la surprise. Il faudra mobiliser l'expérimentation passée, l'expérience passée, ce que l'audition a appris, ce qui représente un peu le métronome du système, et une motivation sans faille, le patient en fait étant un expérimentateur et pas seulement un patient, et jamais un cobaye. En ces phases où le cerveau, le corps du patient rencontrent ces nouvelles sensations, survient un bouleversement de l'expérience sensorielle acquise. Dans un environnement qui a été recomposé de longue date, parfois depuis la naissance, par le déficit sensoriel. Réinsérer la vision dans la perception n'est en rien peupler et structurer une page blanche. C'est s'introduire dans la discontinuité d'une réaffectation des aires du cerveau et dans un espace de travail multisensoriel. C'est perturber des équilibres installés et éprouvés depuis des décennies, voire depuis la naissance. L'expérience des implants cochléaires est riche et informative. Lors de la privation sensorielle, et en particulier congénitale, Les aires corticales, activées par des signaux codés au niveau rétinien, ne se développent pas normalement. De plus, c'est ce qu'avaient montré Hubel et Wiesel, de plus, les aveugles lisent le braille avec leur cortex visuel. C'est ce qu'avaient montré Amir Hamedi et d'autres. On voit que, ça c'est une image du New York Times, c'est le cerveau visuel qui lit le braille et pas le cerveau tactile. Et se recompose un environnement où les fonctions attribuées au cerveau vont lui permettre, par des modalités différentes, dans ce qu'on pourrait appeler multimodalité ou supramodalité, ou choisissant le terme de travail, d'espace de travail neuronal conscient de Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux, de proposer au cerveau des informations par le canal qu'il peut. Il peut y avoir, à un moment donné, un conflit de ces informations, puisque se déroule parfois une restructuration du système visuel. Les aveugles décrivent un monde que les voyants ne comprennent pas. C'est ce que dit très bien Pierre Villet, le spécialiste de Montaigne, dans ce livre sur les aveugles. C'est ce que décrivait très bien Jacques Lucéran, que m'a fait découvrir Zina Végan et dont Jérôme Garcin a écrit la biographie cette année. Ils décrivent des visions, des synesthésies que nous ne comprenons pas. Que devient cette vision lorsque nous restaurons une partie de la vision ? Est-ce que ce problème est un problème récent ? Non, il avait déjà été évoqué par Diderot dans la lettre sur les aveugles, qui faisait référence au problème de Molineux. À l'époque, la chirurgie de la cataracte venait de naître par Jacques Daviel, le chirurgien français dont M. Pouliquen a écrit la biographie, et cette chirurgie ouvrait des horizons de restauration visuelle. Et se pressait dans les salons parisiens, sans souci de l'asepsie qu'on ne connaissait pas encore, puisque, comme disait Pagnol, le grand Pasteur n'avait pas encore inventé les microbes. Donc les gens se pressaient pour voir opérer ces chirurgies de la cataracte et demandaient aux pauvres aveugles qu'est-ce qu'ils voyaient un instant après, puisqu'ils n'avaient jamais vu. Et dans cette perspective-là, Diderot, très élégamment, il en fait ensuite une métaphore philosophique, pose la question du problème de Molineux, c'est-à-dire, avec Y ou I selon les livres, Molineux se posait la question de savoir si un aveugle qui n'avait jamais vu, lorsqu'il allait être placé devant une sphère ou un cube, allait les reconnaître par ses yeux ou devoir les toucher avant de les reconnaître. Problème complexe, problème que nous n'avons pas encore résolu, problème très intéressant à analyser, et il s'avère comme toujours que la vérité est entre les deux. Car chez l'aveugle, une recomposition des structures se déroule. Un travail que nous avons effectué avec Abby Safran et Christophe Abbas a montré qu'il y a une reconnexion, par exemple, des aires visuelles avec les aires du langage chez les aveugles dans la rétinopathie pigmentaire, dont il va falloir tenir compte dans la rééducation de ces patients. Il faut se garder de penser dans tout cela, et je pense que j'ai essayé de le faire jusque-là, que nous avons affaire à un homme-machine. Le corps humain n'est pas une machine, nous essayons simplement de remplacer certains éléments défectueux, mais il faut reconfigurer un espace perspective et une expérience de vie, et rien de moins. C'est ici que nous devons faire écho aux réserves de Merleau-Ponty sur la dioptrique de Descartes, qu'on voit ici. C'est le début du livre, les premières lignes de l'œil et l'esprit. La science manipule les objets et renonce à les habiter. Je vais simplement insister sur un point, il parle de désinvolture, il n'est pas très gentil pour nous, mais il parle surtout de traiter tout être comme objet en général. Et effectivement, il faut avoir une certaine vigilance face à l'homme-machine, face aux risques que ça comporte, parce que même s'il est sans doute possible de réparer, je ne pense pas qu'on répare les humains, on répare des parties des humains, des parties somatiques des humains. Et il faut se garder d'extrapoler cela en pensant que la réparation totale est possible, y compris des dommages autres que ceux qui sont somatiques. Il faut se souvenir, et Descartes le disait, que nous devons admettre la faiblesse de notre nature. Merleau-Ponty, lui, le reprenait. L'homme, c'est l'homme malade. Il allait plus loin en disant que l'homme saint est un mythe, proche parent des mythes nazis. Certes, je cite Merleau-Ponty, certes, nous luttons par toutes ces avancées technologiques contre les conséquences de la fragilité du corps, mais devons-nous nier cette précarité ? Être humain ou post-humain, est-ce vivre ? Ici, c'est un livre d'un récit d'un patient qui a eu des implants corticaux catastrophiques. Et ça, c'est le fantasme de surhumain que nous connaissons, de transhumain, de post-humain, qui est amusant quand on le voit à la télévision, mais qui peut nous amener vers des dérives qui font extrêmement peur. Est-ce vivre qu'être transhumain, post-humain ? Il y a un beau livre qui s'appelle L'invention de Morel qui le décrit, mais peut-être il y a un tableau qui le dit de façon encore plus éloquente, un tableau qu'affectionnait Claude Lévi-Strauss ici, mais aussi évidemment Panofsky et Jean-Claude Minière plus récemment. En Arcadie, lieu idéal des bucoliques de Virgile, la mort est là. On ne voit pas le crâne dans cette version de In Arcadia Ego, mais il y a écrit une impression, Et in Arcadia Ego, j'ai vécu en Arcadie, pour nous rappeler que la mort est présente et qu'elle menace toujours. Le nier, c'est simplement se condamner à l'échec. Nous résonnons dans des corps qu'il faut protéger et écouter. Les corps malades, dont les yeux, selon l'expression d'Apollinaire, sont des feux mal éteints, ils n'expriment qu'une requête, non pas d'être surhumain, d'être augmenté, mais d'être rassuré sur la perte redoutée, de redécouvrir ce qui a fui. Prolongeant la lecture de Deleuze de Spinoza qui énonçait « Nul ne sait ce que peut un corps », il faut faire écho au vibrant silence du corps, écouter son langage, et à partir de l'écoute de son langage, en reconnaître l'inscription, le lien dans le corps. Et dans le corps, se rappeler que l'énigme de la vision n'est pas éliminée, elle est renvoyée de la pensée de voir à la pensée en acte. On essaye aujourd'hui de mesurer ce que le corps peut nous dire sur la vision, et nous avons essayé de mettre au point des environnements pour que le corps puisse s'exprimer de façon quantitative. Un ensemble de plateformes a été développé avec Emmanuel Gutmann pour quantifier l'impact du handicap. Un simulateur, dont vous avez vu un exemple il y a un moment, un appartement et une rue artificielle. Dans cette rue artificielle, nous pouvons modéliser pour les malvoyants et les malentendants l'impact du handicap dans différentes conditions de lumière, de son. Il est possible de quantifier les différents mouvements, de placer des capteurs sur la tête, sur les des mouvements oculomoteurs, des capteurs inertiels, mais aussi différents types de capteurs qui vont permettre de créer, et j'ose à peine employer l'expression, un avatar de la personne que nous testons, qui se livre à ces tests. Cet avatar va se déplacer dans un environnement, on va pouvoir communiquer avec cette personne et déterminer l'impact du handicap visuel dans différents scénarios de la vie quotidienne. Ici, mettre une lettre à la poste, ce qui n'est pas évident. Et ces mesures-là vont nous permettre de quantifier l'impact du handicap visuel et aussi l'impact des thérapeutiques. Il s'agit donc d'une analyse quantitative des mouvements que Alain Berthoz, comme parlant de la vision en action, a toujours prônée, qui rentre dans la vogue, malheureusement, du quantified self et qui n'aborde le problème du corps que de manière arithmétique, ou disons-le, géométrique. Et j'ai envie de substituer l'expression « nul n'entre ici s'il n'est géomètre » par « nul n'entre ici s'il n'est que géomètre ». Le regard clinique et scientifique, certes précis et vérifiable, est à la fois un engagement et un maintien à distance dans l'espace visible. Comment, face à la maladie, avec son cortège et un sentiment prégnant d'urgence, une menace de destruction qui ferme l'horizon, construire un regard efficace dont parlait Starobinsky, que j'avais évoqué tout à l'heure, un regard qui doit être à la fois éloigné, comme le disait Lévi-Strauss, mais aussi celui d'un spectateur engagé, comme le disait Raymond Aron. C'est ce que nous propose Descartes, encore une fois, dans le discours de la méthode. Sans doute à partir de son expérience du poil, il parle d'être logé commodément pendant le temps qu'on travaillera à rebâtir. Après la mise en question, soit par la philosophie, soit malheureusement par les événements de la vie, des bases sur lesquelles nous construisons notre pensée, il faut accepter de détruire ce qui n'est plus soutenable, et en travaillant à la réparation, à une restauration sans doute illusive, occuper un espace de temps moins borné. Hannah Arendt, dans des pages qui sont d'une activité vive, actualité vive depuis l'année dernière en particulier, qui sont intitulées « La brèche entre le passé et le futur », cite une parabole de Kafka. Cette parabole de Kafka décrit une situation tendue entre un passé qui ne peut revenir et un avenir effrayant. Je cite, « Il a deux antagonistes, le premier le pousse de derrière depuis l'origine, le second barre la route devant lui, il se bat avec les deux. Son rêve, cependant, est qu'une fois, il quitte d'un saut la ligne de combat et soit élevé, à cause de son expérience du combat, à la position d'arbitre sur ses antagonistes dans leur combat l'un contre l'autre, le combat du passé contre le présent et réciproquement, et du futur et réciproquement. » Claude Lefort, dans sa préface au Visible et l'Invisible, repostume de Merleau-Ponty, évoque aussi Kafka, pour qui les choses se présentaient non par les racines, mais par un point quelconque situé vers le milieu, l'être jeté au monde, et il acceptait en philosophe de se déprendre de la racine, de se situer en ce milieu et à partir de ce point quelconque. Cette contrainte est le signe de son attache, et c'est parce qu'il s'y soumet que l'espoir lui est donné de progresser d'un domaine à l'autre. Je suis tenté de transposer ces paraboles et cette lecture à la situation du chercheur et surtout du patient qui est tendu entre le refus de la maladie et l'occlusion de l'avenir. Le titre d'un beau livre, celui de Jacques Semelin, qui interviendra ici, qui s'appelle « J'arrive où je suis étranger », un poème d'Aragon, décrit cette situation. C'est celle d'un exil continu et d'un nouvel apprentissage d'un monde qui s'impose. Et ce récit me rappelle des souvenirs, en particulier celui d'une de mes patientes. Elle quitta, comme moi, l'autre côté de la Méditerranée, et sur le bateau qui traversait cette mer, vers ce que nos parents appelaient la métropole, elle eut une impression soudaine d'avoir perdu la clarté du ciel. D'autres ont décrit cette triste fuite de l'éclat de l'azur, mais dans son cas précis, c'était l'effet non de ce qu'on appelait la nostalgérie, mais du déclenchement d'une maladie de Stargardt, affection génétique débutant souvent brutalement dans l'enfance, où elle est alors plus grave. Dans le temps et le récit de la maladie, le sujet est jeté au milieu d'une histoire parfois désespérée et souvent dramatique. Mais ce lieu sans bornes doit devenir, pour lui et pour le chercheur, celui de cette ascension sur place dont parle Merleau-Ponty, de cette compréhension qui, pour Hannah Arendt, est la manière pour l'homme de se réconcilier avec la réalité. Notre temps suspendu, celui de la recherche, sinon retrouvé, c'est celui de l'investigation pour décrypter et tâtonner vers la découverte. Si précieuse est cette respiration patiente et irrégulière, ce temps donné à la quête, à l'errance, à la démarche conjuguée d'acteurs multiples unis autour d'un objet de connaissance à faire surgir, miracle trop exceptionnel mais si fort et si stimulant. Le rôle des médecins, des patients et des chercheurs ensemble est de comprendre ce qui s'est passé au passage de cette frontière, d'en faciliter le franchissement en retour, ou à minima, de redonner aux patients une position moins anxieuse, sinon plus sereine face à la cécité, celle d'un arbitre de sa propre vie. Et quelle peut être l'instance de cet arbitrage, sinon la connaissance scientifique, pour nous et pour le patient, peut-être charnelle, c'est-à-dire dans le corps présent, à soi et ouvert à l'autre. Attribuer à la connaissance une valeur sinon suprême, mais comme le disait Valérie, une valeur d'usage, nourrissait l'éducation que le petit garçon dont je parlais a reçue de part et d'autre de la Méditerranée. J'ai encore dans les yeux le livre d'histoire où, à Rodez, je découvrais le rayonnement de la Sorbonne, la fondation par Saint-Louis de l'Hospice des 15-20 et par François Ier du Collège de France. Ces rois savaient que la fonction crée l'organe, en l'occurrence l'institution. Le petit migrant qui découvrait le prestige que son pays accordait au savoir et aux soins a vieilli, mais ma confiance dans l'éthique et les bienfaits de la connaissance trouve dans ces institutions qui m'ont ouvert leurs portes un lieu où chaque jour naître et être. Cette stance qui nous offre lieu et temps pour chercher requiert une relative stabilité des instances qui nous soutiennent autant qu'elles le peuvent. L'université, dans mon cas Louis Pasteur à Strasbourg, puis Pierre et Marie Curie à Paris, et leur faculté de médecine, l'INSERM, le CNRS, les hôpitaux, les 15-20, la Fondation Rothschild, le DHU Vision Handicap. L'État et les collectivités qui nous soutiennent aussi, les industriels, les associations de patients, l'Europe et toutes ces structures de financement que l'imagination politique a multipliée, sans doute pour libérer la nôtre, comme la Fondation de coopération scientifique Voir et Entendre, le laboratoire d'excellence Life Sciences, l'Institut Carnot, outil de stratégie indispensable avec comme concrétisation de la convergence sensorielle, c'est la construction de l'Institut de l'audition. Ce que nous avons appris grâce à cette créativité institutionnelle, c'est qui ne recule devant aucun nouveau label qui évolue simplificateur et structurant, mais évite la simplicité et la liberté, c'est à penser et agir en un système complexe, encombré et encombrant. La condition de survie dans un tel environnement est fragile et menacée. C'est la confiance qui tisse le lien entre les acteurs publics. Et comme l'État ne peut pas tout, que ces phases relèvent d'autres métiers, dans la constellation que nous avons créée dans l'hôpital avec l'Institut de la Vision, bientôt l'Institut de l'Audition et le passage de l'innovation, il faut aussi créer une confiance mutuelle avec des partenaires industriels, indispensables à la mise en œuvre de compétences et aussi de moyens au service du développement jusqu'aux patients de l'innovation. Cette alliance équilibrée, sans dépendance, je la vis grâce à Bernard Gillier et ses équipes. Et puisque j'ai osé parler de profession de foi, cette foi se fonde sur la conviction et le constat heureux que ce qu'un regard seul ne peut atteindre requiert l'attention d'une communauté agissante, convoquée par l'impatience et cohérente dans ses efforts pluriels, autour du savoir et non des savoirs. Je n'aurais rien entrepris sinon réussi, sans mettre, pour reprendre l'expression de René Char, uni au courage de quelques êtres. Avant de conclure sur la confiance, soulignons ce mot de courage. C'est celui des patients qui choisissent d'accepter et de combattre la maladie. C'est celle de leurs proches. C'est celle de toutes celles et ceux qui, après avoir approfondi un champ disciplinaire avec une grande compétence, acceptent la confrontation à d'autres savoirs, d'autres questionnements, comprenant que le patient ne nous pose pas une question scientifique et disciplinaire, a fortiori dans un domaine restreint, mais une problématique holistique, globale, que nous devons traduire dans nos langages pour lui appliquer nos concepts et nos outils, puis parfois nos ébauches de solutions. Un faux débat donne à penser qu'il faille se détourner de la profondeur de l'investigation scientifique la plus pointue et surtout la plus indépendante afin de contribuer rapidement à des solutions potentiellement pratiques. La curiosité, sans limite, est non seulement une nécessité, mais comme l'écrivait Hans Blumenberg, une vertu au sens latin du mot. Pour nous, la perspective humaine tracée par les patients permet à l'intense exigence de quêteurs de la connaissance libre de franchir quelques limites du savoir réel, tout en contribuant parfois à tendre au premier quelques moyens de s'affranchir des limites de la maladie et de redécouvrir l'horizon large et serein de la santé. René Charles parlait du vœu des regards. Paul Valéry décrivait des regards qui s'échangent, le chiasma de deux destinées, de deux points de vue. Le vœu d'un rapprochement des regards qui enrichit nos jours pourrait se concevoir comme ce que Merleau-Ponty, inspiré par Valéry, appelle dans le dernier chapitre de son manuscrit « Le visible et l'invisible », l'entrelac, le chiasme. Texte éblouissant où il dit que le propre du visible est d'être une superficie d'une profondeur inépuisable. C'est ce qui fait qu'il peut être ouvert à d'autres visions que la nôtre. En se réalisant donc, elles accusent les limites de notre vision de fait. Elle souligne l'illusion solipsiste qui est de croire que tout dépassement est un dépassement de soi. Ailleurs, il dit, tout repose sur la richesse insurpassable, sur la miraculeuse multiplication du sensible. Ce croisement des regards pourrait, plutôt que les confronter, les associer dans la perception des phénomènes de la vie, ce que fait le chiasma optique, ici illustré par Alain Chédotal. Il s'agit de rapprocher les regards complémentaires des soignants, des chercheurs et des patients et de se souvenir, notion centrale chez Merleau-Ponty, que la perception s'inscrit dans une chair, un corps, qui souffrant en appelle à un autre être corporel pour le comprendre et l'aider par le lien. Un corps humain est là quand entre voyant et visible, entre touchant et touché, se fait une sorte de recroisement. Quand s'allume l'étincelle du sentant sensible, quand prend ce feu qui ne cessera pas de brûler, jusqu'à ce que tel accident du corps défasse ce que nul accident n'aurait suffi à faire. C'est finalement en acceptant d'être questionné, certes autrement, avec plus de distance, mais avec vigueur et acuité, de faire des demandes du patient le moteur de leur action, que le médecin et le chercheur ensemble peuvent innover, c'est-à-dire redonner des ressources aux vivants. Ce travail incessant, jamais abouti et souvent heureux, et celui d'une communauté de savoir large et vibrante, dont la cohésion et la force précaire et précieuse se lisent dans ces mots de René Char que je me répète chaque jour. Moi qui jouis du privilège de sentir tout ensemble défection et confiance, accablement et courage, je n'ai jamais retenu personne, sinon l'angle fusant d'une rencontre. Merci pour avoir partagé cette joie inquiète.